Je pense que ce que je vous dis là n'est pas trop difficile, trop élevé. En tout cas, la Bible nous en instruit. Et je le répète, heureux l'homme qui réfléchit sur les choses. Je pense que nous avons un déficit du côté de la méditation et de la réflexion. Et en général, notre défaut, c'est que nous étudions la Bible trop par une succession de versets, de déclarations. Nous attendons des déclarations, nous voulons des déclarations que nous mettons au bout les unes des autres, et puis avec ça, nous faisons notre doctrine. Eh bien, c'est mauvais. C'est très mauvais, parce que toutes les sectes font ainsi. Elles aboutissent à des doctrines divergentes. Ce n'est pas ainsi. Il faut de la réflexion, il faut de la méditation sur l'Écriture. Et c'est pourquoi, ici, en quelque sorte, nous sommes dans un exercice de méditation, mais aussi, bien sûr, nous sommes dans une recherche de connaissance, d'une connaissance biblique dont nous avons besoin. La connaissance n'est pas seulement celle des versets, des déclarations explicites. La connaissance, c'est aussi de pénétrer le mystère de Dieu, le mystère du royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul disait, « Voyez quelle connaissance j'ai moi-même, quelle intelligence j'ai du mystère de Christ. » Et ce que nous disons là importe pour la connaissance, pour l'intelligence du mystère de Christ. Donc le temps est pour nous une limitation. Reconnaissons la chose, et il n'en est pas ainsi dans tout l'univers. L'éternité, elle, n'est pas un temps parce que elle n'a ni commencement ni fin. Alors, notre erreur, souvent, quand nous considérons l'éternité, il faut bien la considérer, car le Jésus nous apporte la vie éternelle. Et le bonheur parfait ne peut se situer que dans l'éternité. Alors, l'éternité n'a ni commencement ni fin. Bien sûr, nous ne pouvons pas concevoir ça, nous l'avons déjà dit, ne cherchons pas, notre intelligence d'homme, nos facultés à concevoir l'éternité, ça nous étouffe, ça nous dépasse. Ça, c'est bien vrai. Le temps, lui, a une origine. Il a une origine. En effet, que dit la Genèse? Elle commence par nous mettre devant cela. Genèse, chapitre 1, verset 5. Chapitre 1, verset 5. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Oh, on a fait de ces jours de la Genèse des jours symboliques. Ah, chers amis, pour démolir et pour ajuster à nos conceptions humaines, nous sommes forts. Et les théologiens sont très forts. Seulement les théologiens... En général, ils ont tout détruit, tout démoli. À témoin, ce livre intitulé « Tempête sur la Bible », où l'auteur, qui est un pasteur allemand, docteur en philosophie d'ailleurs, hein, peut se permettre de traiter ce sujet, nous montre les destructions opérées par la théologie raisonneuse et qui se veut scientifique. Il y eut un matin, un soir et un matin, ce fut le premier jour. Le temps a un commencement, tandis que l'éternité n'en a pas. Or, ce fait que le temps a un commencement fait que il y a une cause au temps. Il y a une décision, et nous venons de le voir, qui préside au temps, c'est la décision de Dieu, c'est ce que nous avons lu, il y eut un soir, il y eut un matin, la volonté de Dieu intervient, ce fut le premier jour, c'est Dieu qui, donc, donne le temps, le fait commencer, n'est-ce pas, comme cela nous est enseigné. La cause du temps, c'est donc un acte créateur du Dieu éternel. Ah, nous avons vu que le Dieu, lui, Dieu est éternel, c'est-à-dire, on dit souvent, intemporel, I-N-T-E-M-P-O-R-E-L, intemporel, ce qui veut dire qu'il est hors du temps. Il n'est pas, lui, affecté par le temps, il est indépendant du temps qu'il a créé. Alors, comprenez bien cela, c'est utile pour la suite. Il est indépendant. Comme, par exemple, celui qui a construit ses instruments, ici, est au-dessus des instruments. Il est indépendant des instruments. Un maçon qui construit une maison n'est pas dans les matériaux de la maison. Il n'est pas, lui, lié, cimenté à la maison. Il est indépendant de la maison. Il a une pensée et il a une activité qui se sont situées au-dessus de la maison. Il a pu concevoir la maison, il a pu la réaliser. Il est donc indépendant de la maison et au-dessus de la maison. Vous comprenez cela? Eh bien, il en est ainsi de Dieu concernant le temps, puisque Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et attention, ça n'existera plus. Ça n'existera plus sur la nouvelle terre. Attention. Pensez bien à ça, ça n'existera plus. L'Apocalypse nous montre. Nous y viendrons. Ainsi, Dieu appelle la lumière jour et les ténèbres nuit, c'est un acte créateur, c'est un acte de sa volonté, il crée le temps. Le temps qui nous conditionne, qui conditionne notre vie, et même notre vie physique. Nous naissons, nous grandissons, et puis nous vieillissons, et puis nous mourons. Le temps, voyez, même conditionne notre vie physique, tandis que Dieu est indépendant du temps, il est un Dieu infini. Nous allons lire dans la première épître à Timothée, chapitre 1, verset 17. « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire, au siècle des siècles, amen. » Au siècle des siècles, c'est encore un superlatif, c'est une forme superlative qui veut dire indéfiniment. Et la Bible nous montre, quand il s'agit de Dieu, l'infinité. L'infinité, l'immensité, l'infinité. Et le Dieu lui-même est immortel, invisible. Dans le chapitre 6 de cette même épître, chapitre 6, verset 15, « Que manifestera en son temps l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ ? Que manifestera Jésus-Christ, donc, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » Voyez comment la Bible s'exprime touchant notre Dieu. Ainsi, Dieu est hors du temps. Et je disais que dans la Nouvelle Jérusalem, eh bien, l'on retrouvera, et ce sont des hommes sauvés, vous-même, mes amis, si vous voulez bien persévérer jusqu'à la fin, n'est-ce pas, rester ferme et être des victorieux, alors vous entrerez, vous aussi, hors du temps. Je vais vous le montrer, je vais m'appliquer à vous montrer cela ce matin, car il faut que vous en ayez la pensée de l'éternité. Eh bien, dans l'Apocalypse, au chapitre 21, lisons au verset 23. La ville, il s'agit de la Nouvelle Jérusalem, la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à la lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations, il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Est-ce que vous êtes écrits? Ah, bon, alors vous en avez l'assurance. Eh bien, cultivez-la, cette assurance, chers amis, et cultivez-la en vous préparant toujours de mieux en mieux à être vraiment séparés du péché, morts au péché, afin que vous puissiez revêtir la sainteté de notre Dieu. Alors, remarquons une chose, c'est que l'état parfait de sainteté est indispensable pour être en dehors du temps, pour être dans l'éternité. On ne peut pas être dans l'éternité si l'on est encore tant soit peu atteint, travaillé par le péché. Il faut en être entièrement délivré, être vainqueur. Ça, bien sûr, c'est la condition d'ordre spirituel, elle est dominante. Soyez saints comme je suis saint, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Vous savez ces choses, n'est-ce pas? La condition spirituelle, c'est la condition majeure, essentielle, première. Et alors, lorsque nous aurons été rendus parfaits, car le Seigneur nous élèvera à la perfection, et il y a maintenant des esprits, les esprits des justes parvenus à la perfection. Ah, il y en a même beaucoup, des hommes, des femmes, qui sont dans la perfection. Hébreux 12, 24. Ils sont dans la perfection, ils sont là, ils attendent le moment de la résurrection, mais ils sont entrés dans la perfection. Et par conséquent, c'est ce vers quoi le Seigneur nous conduit, la perfection. L'éternité est exigeante de perfection. Pour être immortel, il faut être hors du temps, comme Dieu, et étant hors du temps, ayant l'éternité, eh bien, il faut que nous ayons la perfection, la sainteté de Dieu et la perfection, bien entendu. Et remarquons ceci dans le verset 25, c'est que les portes de la cité nouvelle ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Il n'y aura pas de jour, il n'y aura pas de nuit. Ce que Dieu a fait au commencement pour la terre, tout cela se trouve révoqué. C'était donc quelque chose de temporaire, le temps lui-même était limité, temporaire. Il avait un commencement, il aura une fin. Et par conséquent, notre monde, c'est pourquoi nous ne sommes pas étonnés de voir que dans ce chapitre 21 au commencement, il y a Jean, voit un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, comme une épouse préparée, qui s'est parée pour son époux. Alors, ce n'est pas étonnant que la première terre disparaisse, et Jean voit paraître une autre terre, c'est-à-dire la première terre, celle-là, même après ce rétablissement qu'elle connaîtra lorsque Jésus viendra y régner pour les 1000 ans annoncés, eh bien, à l'issue de cela, cette terre doit disparaître. Pourquoi? Pourtant, elle sera magnifique, elle sera belle. Et pourquoi doit-elle disparaître? À cause de la révolte finale de Gog? Non, pas ça. Elle doit disparaître parce qu'elle est liée au temps et que le temps prend fin. Et il faut un nouveau séjour où il n'y ait ni jour ni nuit. C'est ce que nous avons lu. Il n'y aura ni jour ni nuit. Ce qui, en termes très simples, puisque la Bible emploie toujours des termes simples, aussi simples que possible, pour que nous saisissions, pour que nous retenions, eh bien, alors, il n'y a ni jour ni nuit, il n'y a plus de découpage de temps. Il n'y a plus de temps. C'est fini. Nous entrons avec Dieu. D'ailleurs, il nous est dit dans l'Apocalypse que les hommes seront en présence de Dieu. Il habitera avec eux. Ils vont faire tabernacle, habitation commune avec Dieu. Les amis, habiter avec Dieu. Alors, il faut bien, puisque Dieu n'entre pas, lui, dans le temps, et qu'il est toujours hors du temps, il faut que nous soyons, nous aussi, hors du temps. Dieu qui est hors du temps domine le temps qui est son œuvre, il y exerce sa souveraineté de créateur, il exerce dans le cadre de la terre, nous l'avons vu, sa souveraineté de créateur, de Dieu juste, de Dieu qui aime, qui a créé en raison même de son amour, car le grand mobile de Dieu c'est son amour, alors lui il est souverain dans le cadre du temps. Mais il est en dehors du temps. Il est écrit, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a élus par conséquent dans cette position qui est la sienne hors du temps, en dehors du temps, avant même de prescrire le premier jour, qu'il y ait une nuit, qu'il y ait un matin, ce fut le premier jour, avant de mettre en place le premier jour, le commencement du temps, le Seigneur nous avait élus. Pour nous faire paraître nous-mêmes dans cette même position hors du temps, par un passage à travers le temps. Est-ce que vous voyez que vraiment notre séjour sur la terre est un passage? Et que ça ne peut pas être une demeure permanente, comme la Bible nous le dit. La communion avec Jésus-Christ nous fait apercevoir une vie élevée. D'ailleurs, notez bien ceci, c'est que Jésus-Christ nous donne la vie maintenant. Ça, c'est une chose que nous rappelons souvent. C'est maintenant qu'il nous donne la vie. Elle s'appelle vie éternelle, mais c'est maintenant qu'il nous la donne. Et c'est pourquoi j'aime souvent souligner que c'est la vie véritable. Ainsi, le Seigneur nous fait apercevoir une vie élevée, une vie véritable, et une vie affranchie du temps, puisqu'elle est éternelle. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle? Pour avoir la vie éternelle, il faut venir à moi pour avoir la vie éternelle. Alors déjà, par conséquent, le disciple de Jésus, celui qui l'écoute, celui qui le suit, celui qui demeure en Christ, eh bien, ce vrai disciple de Christ connaît une libération. Connaît une libération. Non seulement une délivrance de sa captivité qui provient du péché, qui provient de la chute qui agissait dans ses membres, mais une libération même au-dessus encore de la délivrance de la puissance du péché. Et de la condamnation, bien sûr, et de la puissance du péché. Il y a délivrance de la condamnation, par le pardon des péchés, délivrance de la puissance du péché, mais il y a une libération aussi dont nous parle l'Écriture, une libération plus vaste encore que ça. C'est-à-dire que la délivrance du péché, de la puissance du péché, permet une libération. Et cette libération situe le vrai disciple au-dessus des événements, au-dessus des agissements de la terre, du monde. Ah, quand la Bible, quand le Christ lui-même, elle nous dit « Moi, je ne suis pas du monde », il dit cela dans sa prière sacerdotale à son Père, et il nous le dit à nous. « Je ne suis pas du monde, et eux, je les ai pris dans le monde, mais comme ils sont à moi, comme tu me les as donnés, Père, ils sont à moi. Alors maintenant, ils sont dans ma position, ils ne sont plus du monde, eux non plus. » Alors, nous comprenons généralement, d'une façon très restreinte, c'est dommage que nous restreignions la valeur des paroles de notre Seigneur. Alors, nous comprenons que nous sommes distraits, séparés du monde, n'est-ce pas, séparés du monde, séparés de ce qui est mauvais dans le monde. Bien sûr, nous y marchons encore dans ce monde, nous nous y afférons encore parce que nous devons y travailler, nous devons y trouver notre subsistance et la satisfaction de nos besoins matériels. C'est vrai. Mais ce n'est pas seulement que nous sommes séparés de ce qui est mauvais dans ce monde. Nous sommes séparés des rudiments du monde. Nous sommes séparés de ce qui fait la pensée du monde. Nous sommes séparés de ce qui fait la limitation du monde. Du monde pécheur. Nous sommes séparés. Et cette libération dont je parle nous situe au-dessus des agissements de la terre, étant donc d'abord affranchi de toute participation au mal de la terre, au mal qui est la caractéristique dominante du monde, nous sommes affranchis de la participation au mal, nous sommes affranchis des troubles terribles que connaît le monde de la terre, nous sommes affranchis des inquiétudes d'avenir, mais nous avons une libération qui nous porte plus haut encore. Une libération parce que nous avons reçu un élément d'éternité. Nous avons reçu un élément d'éternité avec Christ. Car notre foi est une victoire sur le monde. Jean le dit dans sa première épître. Notre foi est une victoire sur le monde. Elle est donc une élévation au-dessus du monde enténébré. Et alors, nous comprenons que l'Écriture, voulant nous faire comprendre cette libération ascensionnelle, nous dise ce que je vais vous lire dans les Éphésiens, chapitre 2. Et verset 6, attention, il nous a, c'est Jésus-Christ, il nous a ressuscités ensemble, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Mes amis, est-ce que la Bible peut exagérer? Pensez-vous cela, vous? Si vous pensiez cela, je serais obligé de vous gronder. Mais je n'ai pas besoin de le faire, car vous ne pouvez pas penser que la Bible exagère. Les paroles de la Bible sont vraies, puisqu'elle est la parole de Dieu et tout est inspiré, n'est-ce pas? Alors, nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous avons été ressuscités ensemble, bien que notre corps ne le soit pas encore. Mais Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est de cette élévation-là que je voulais vous parler. Il y a un élément d'éternité dans la vie que le Seigneur Jésus fait couler en nous. Dans la vie qu'il nous communique, il y a un élément d'éternité. Un élément d'éternité. Et c'est pourquoi nous sommes déjà séparés de ce monde, bien plus que comme nous le pensions, séparés du mal, mais nous sommes véritablement déjà séparés de ce monde, parce que nous connaissons une élévation, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, c'est là notre place. Et l'apôtre Paul, qui a eu dans le mystère de Christ dont il avait l'intelligence, qui a eu cette révélation, alors l'apôtre Paul nous dit, quand Christ paraîtra, votre vie paraîtra, parce qu'elle est là-haut, votre vie, elle n'est pas ici, elle ne traîne pas sur la terre, votre vie, elle est là-haut. Ah, mes amis, comme cela doit nous procurer, si nous le méditons bien, des pensées nouvelles, des pensées plus hautes, des pensées directrices pour la continuation de notre pèlerinage sur la terre. Allez, celui qui considère sa foi et son appartenance à l'Église de Jésus-Christ comme une position religieuse, celui-là a vraiment une vue bornée, limitée. Il faut que notre vision corresponde à la parole de Dieu. Il faut que ce soit la parole de Dieu qui établisse en nous une vision large, nouvelle. Le Seigneur nous dit, je ne suis plus du monde, eux, ils étaient du monde, mais ils m'appartiennent, ils ne sont plus du monde. Et si Christ est là-haut, nous y sommes aussi. Il y a une élévation, un élément d'éternité qui nous est donné. C'est ça, avoir la vie en soi. Hein? Avoir la vie. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Si nous allons à Christ, nous avons la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Il est passé d'un état pour aller dans un autre. Ce qui importe dans la vie chrétienne, c'est que nous maintenions cela. C'est que nous manifestions cela. C'est qu'en partant de ce que Dieu nous dit, voilà ce que j'ai fait en vous, pour vous, en vous, par mon Fils Jésus-Christ, voilà ce que j'ai fait, et bien maintenant, montrez-le. Manifestez-le par votre fidélité, par votre amour. Vous allez le manifester, vous pouvez le manifester. Ne traînez pas constamment dans des pensées terre à terre. Manifestez ce que vous êtes. Vous êtes enfant de Dieu. Et alors le Seigneur nous dit, eh bien, soyez ce que vous êtes. Enfant de Dieu, vous l'êtes, nous dit l'Écriture. Enfant de Dieu, c'est comme, par exemple, un chef, le chef d'une nation, un roi, par exemple, qui dirait à quelqu'un, mon ami, je fais de toi un ambassadeur. C'était peut-être un homme tout à fait étranger, à une telle mission, une telle tâche, pas, il était peut-être dans la culture. Puis un jour, le roi l'appelle, mon ami, je fais de toi un ambassadeur, je te nomme ambassadeur. Alors maintenant, tu vas aller là où je te dirai, et il faudra que tu te manifestes comme ambassadeur. J'emploie ce terme parce que justement il est dans l'Écriture, n'est-ce pas? Vous savez. Alors, il faudra que tu te manifestes. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Voilà le sens de notre vie actuelle. Le Seigneur nous dit, enfant de Dieu, je te désigne, je te nomme en quelque sorte, si je puis employer le même terme, je te nomme enfant de Dieu. Tu es nommé enfant de Dieu. Tu es fait enfant de Dieu. Je veux que tu sois enfant de Dieu et tu l'es. Alors maintenant, manifeste-toi en tant qu'enfant de Dieu. Alors, pour te manifester comme enfant de Dieu, tu as toute la parole pour te guider. Tu n'as qu'à méditer cette parole, tu n'as qu'à la lire, tu n'as qu'à laisser mon esprit agir en toi, tu recevras mes grâces en abondance, et mes grâces seront adaptées à tes besoins. Chers amis, le Seigneur adapte ses grâces aux besoins de chacun de nous. L'Écriture nous dit toutes ces choses. Alors elles seront ajustées à tes besoins. Tu auras tout cela. Mais attention, tout cela tu ne peux vraiment le mettre en œuvre que si tu as une foi vaillante. Une foi qui veut, une foi qui saisit, une foi qui entend glorifier ton Dieu, une foi qui entend en quelque sorte donner raison à ton Dieu qui t'a désigné comme enfant de Dieu. Il t'a appelé, il t'a établi. Vous comprenez ces choses, chers amis, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus dans le terre-à-terre des choses que les hommes peuvent faire. La vie chrétienne est d'essence absolument surnaturelle. La vie chrétienne est surnaturelle. Voilà ce qu'il faut dire et penser, parce que sans quoi, n'est-ce pas, nous serions au même niveau que n'importe quelle secte qui prend la Bible et puis qui en tire des obligations, des consignes comme ceci, comme cela, vous devez croire ceci, vous devez penser cela, vous devez opérer comme ça, n'est-ce pas? Mais non, la Bible n'est pas un code, la Bible est une révélation des desseins de Dieu, du plan de Dieu, une révélation de ce que Dieu attend de nous. Et de ce qu'il fait pour nous et en nous. Nous avons dans l'Ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiaste, un livre assez préoccupant, difficile souvent à étudier. J'en ai fait l'étude à Bièvre sur la demande des élèves cette année. Mais je reconnais que c'est un livre qui n'est pas facile à expliquer, et même toujours pas facile à bien comprendre. Il faut s'y appliquer vraiment, n'est-ce pas? Mais enfin, nous allons prendre simplement un verset, au chapitre 3. Chapitre 3, le verset 11. Le verset 11 du chapitre 3. Il fait toute chose bonne en son temps. C'est Dieu qui fait toute chose bonne en son temps. Même, j'aime bien ce même, ça veut dire, n'est-ce pas, et bien plus encore, attention, bien plus encore, nous allons voir ce qu'il fait. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Bon, ça que l'homme ne puisse pas saisir, nous l'avons bien déclaré, il ne peut pas comprendre. Mais on ne lui demande pas de comprendre avec son intelligence d'homme, avec ses facultés, on lui demande simplement de saisir par la foi. Et ses facultés, elles sont mobilisées au service de la foi. Alors, ici, le Seigneur nous dit, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ce doit être important, puisque le préambule est, il fait toute chose bonne en son temps. Bien que notre pensée d'homme soit conditionné par le temps, comme nous l'avons dit, il y a en notre esprit, en notre cœur, mais on peut comprendre aussi en notre esprit. Le cœur, dans l'Ancien Testament, c'est une réunion de l'esprit et de l'âme. C'est assez curieux, la notion de cœur dans l'Ancien Testament. Il faut penser que, en somme, l'esprit, vous savez que l'homme est esprit, âme et corps. Hein? très intéressant d'étudier ça aussi. Eh bien, l'esprit et l'âme, l'esprit qui est chargé des relations avec Dieu, l'âme qui est le centre des émotions, des pensées, des résolutions, de la volonté, c'est là, n'est-ce pas, que se forme tout cela. Eh bien, le cœur, c'est la réunion, en quelque sorte, des deux. C'est l'esprit conjugué avec l'âme. Voilà ce que l'Ancien Testament appelle surtout le cœur. Je dis ici notre esprit. Il y a en notre esprit comme un besoin, un soupir, un besoin. Soupir, ça ne nous étonne pas, puisque Paul lui-même le note, ce soupir. Même la création a un soupir. Il y a comme un soupir vers une permanence. En somme, le temps qui passe, le temps qui arrête des événements, qui arrête des vies même, tout cela ne peut pas nous satisfaire. Tout cela est une occasion de souffrance intérieure. Et il y a un soupir au-delà de ces arrêts qui se situent dans le temps. Au-delà des fluctuations, pourrais-je dire, qu'apporte le temps. Alors, si notre vie chrétienne, notre vie spirituelle est active, et fervente, attention, je mets ainsi, si notre vie spirituelle est active et fervente, alors notre pensée se trouve sollicitée. Elle se trouve sollicitée vers une source intarissable de vie. On pourrait dire d'être et de vie. J'emploie ce mot « être » à Paul, dans les actes. Vous voyez, n'est-ce pas, si vraiment nous sommes à Christ, qui nous a communiqué, comme je disais tout à l'heure, la vie éternelle, alors en nous, il y a un besoin, un désir, qui nous porte vers une source intarissable. En nous, il doit y avoir, en somme, l'appel de cette vie éternelle, de cette vie impérissable. Nous l'avons, mais il y a un appel vers cette vie. On peut même dire que cet appel se fait ressentir chez des gens qui ne sont pas encore à Jésus-Christ, ils ne sont pas encore inconvertis, d'ailleurs c'est bien ce que nous dit notre texte dans l'Ecclésiaste ici, hein, mais cela ne se fera sentir qu'à condition que l'homme ne soit pas livré à son orgueil, hein, son orgueil d'homme qui l'obscurcit entièrement. Si donc il n'est pas obscurci par son orgueil, mais il y a tout de même des hommes, il y a des hommes simples, il y a des hommes humbles qui pensent un peu. C'est ce que notre texte ici nous dit. Nous sentons que le bonheur parfait, le vrai bonheur, auquel un homme ne peut pas manquer d'aspirer, ça, l'aspiration au bonheur, ça, elle est chez tout le monde, même chez l'homme le pire, une aspiration au bonheur. Tout le monde aspire au bonheur, ou alors à moins que ce soit un suicidaire. Vraiment, n'est-ce pas, qu'il soit désespéré. Mais sans ça, dans l'équilibre normal de l'homme, il y a une aspiration au bonheur. Bien sûr, on va le chercher là où il n'est pas le vrai bonheur. Mais on aspire quand même au bonheur. On s'en donne, on veut s'en donner soi-même, on veut le prendre dans le monde. Hein, et on est déçu, bien sûr, mais il y a une aspiration au bonheur. Hein. Eh bien, nous sentons, nous, que le bonheur parfait a besoin de l'éternité. N'a besoin d'éternité. Et jamais, et la Bible nous l'exprime, chers amis, jamais sur cette terre, tant que nous sommes ici, nous pourrons connaître le bonheur parfait. C'est pourquoi ne demandons pas l'impossible, Le Seigneur nous aime, il veut nous combler, mais il nous donne bien des choses sur cette terre, mais il ne nous a jamais dit que nous aurions le bonheur parfait sur cette terre. Attention. Parce que si nous l'avions, nous voudrions y rester. Et le Seigneur n'est pas du tout, lui, dans cette intention-là de nous laisser ici. Il veut nous sortir du temps et nous sortir de ce monde. Donc le bonheur parfait a besoin de l'éternité. Le bonheur parfait, nous sentons qu'il est, il doit être, à l'abri des malheurs et de la mort, bien sûr. Il doit être à l'abri. S'il y a la mort, s'il y a les maux, M-A-U-X, s'il y a les malheurs qui soient là à nous menacer, on ne peut pas goûter le bonheur parfait. Il faut donc que ce bonheur parfait auquel le cœur humain aspire soit à l'abri des malheurs, à l'abri des séparations. Et vous savez ce que les séparations souvent occasionnent de douleur. Quand on voit partir un être aimé, on est chrétien, on le reverra plus tard. Mais enfin, il y a un déchirement, non ? Il y a un déchirement quand même, n'est-ce pas ? Une séparation, c'est douloureux. Alors, à l'abri, il faut que le bonheur parfait soit à l'abri de ces séparations, c'est-à-dire des pertes causées à l'affection, à l'amour, à l'union par le cœur. Alors, ce bonheur parfait se situe dans l'éternité. Il ne peut pas se situer dans le temps, il se situe dans l'éternité. Dans un cœur qui a été régénéré par la nouvelle naissance et qui est attaché à Jésus-Christ, alors il y a comme une évasion, une sortie, une libération, je disais tout à l'heure, du monde temporel, de ce monde actuel, régi par le temps. Il y a une évasion du monde temporel vers le monde supratemporel. Je l'appelle ainsi, c'est-à-dire au-delà du temps. L'au-delà, c'est ce que nous appelons l'au-delà, vers l'au-delà, n'est-ce pas ? Le monde supratemporel, le monde qui est au-dessus de celui-ci, en dehors de celui que nous connaissons ici et qui est le monde temporel, le monde régi par le temps, par la marche du temps. Alors, il y a donc une évasion vers l'éternité. Vous voyez, il a mis dans leur cœur la pensée, le soupir, le besoin de l'éternité. Dieu a mis cela dans le cœur de l'homme. Et on ne peut pas l'effacer, ça. On ne peut pas l'effacer. Bien des témoignages d'hommes non convertis nous ont démontré suffisamment, et nous avons été heureux de pouvoir le constater ainsi par observation, en ce temps, nous ont démontré que même chez les gens réfractaires à la soumission à l'Évangile, réfractaires à l'écoute de l'Évangile, eh bien, même chez eux, il y a ce soupir, cette pensée vers l'éternité. Et c'est tellement vrai que nos incrédules irréductibles, nos incrédules, nos agnostiques, les gens qui ne veulent pas de connaissance, nos athées, les gens qui, par position qu'ils se sont donnés, sont contre un Dieu, contre Dieu, ne veulent pas de Dieu. Ils ont rayé Dieu, ne veulent pas, parce que l'Évangile demande une humiliation, demande une repentance. Ça, le diable leur dit, tu sais, attention, et si tu te repens, tu es séparé d'un tas de choses que tu aimes, leurs œuvres sont mauvaises, alors ils ne veulent pas de l'Évangile, ces gens-là. Eh bien, chez ces gens-là, athées, agnostiques, incrédules de toutes sortes, de tout temps, chers amis, il y a un soupir vers l'éternité. C'est tellement vrai qu'ils s'en vont chercher toutes sortes de systèmes, toutes sortes de d'institution, pourrait-on dire, due à l'imagination humaine, mais due aussi aux esprits méchants. Hein, ils vont chercher des groupements ésotériques, mystérieux, dans lesquels ils vont essayer tout de même d'assouvir ce besoin qu'ils ont d'une échappée de ce monde vers un monde éternel. Comme nous avons, nous, un grand bonheur d'avoir été appelé par Jésus-Christ. Un grand bonheur, mes amis, attention de ne pas le mésestimer, ce bonheur-là. Et quel bonheur, et quelle grâce ne devons-nous pas rendre à Dieu de nous avoir appelés. Alors nous avons été appelés, notre bonheur est grand, parce que nous sommes en présence de Dieu, en présence de la vérité, en présence de la vie véritable, authentique. Et cette vie authentique, déjà, elle a pénétré nos entrailles, elle est entrée dans notre cœur, elle est entrée en nous, elle fera son œuvre, et elle nous conduira à la résurrection de nos corps, pour que, avec des corps célestes, des corps qui peuvent, eux, entrer dans l'éternité, nous soyons pour toujours en présence de Dieu. Que gloire soit donnée à son nom. Amen.